Au haut de la gorge s'étalait une prairie clairsemée d'arbustes. Les barbares en dévorèrent les bourgeons. Ensuite, ils trouvèrent un champ de fèves, et tout disparut comme si un nuage de sauterelles eût passé par là. 3 heures après, ils arrivèrent sur un second plateau que bordait une ceinture de collines vertes. Entre les ondulations de ces monticules, des gerbes couleur d'argent brillaient, espacées les unes des autres. Les barbares, éblouis par le soleil, apercevaient confusément en dessous de grosses masses noires qui les supportaient. Elles se levèrent comme si elles se fussent épanouies. C'étaient les lances dans des tours sur des éléphants effroyablement armés. Outre les pieux de leur poitrail, les poinçons de leur défense, les plaques d'airain qui couvraient leurs flancs et les poignards tenus à leur grenouillère, ils avaient au bout de leur trompe un bracelet de cuir où était passé le manche d'un large coutelas. Partis tous à la fois du fond de la plaine, ils s'avançaient de chaque côté, parallèlement. Une terreur sans nom glaça les barbares. Ils ne tentèrent même pas de s'enfuir. Déjà, ils se trouvaient enveloppés. Les éléphants entrèrent dans cette masse d'hommes, et les éperons de leur poitrail la divisaient, les lances de leur défense la retournaient comme des socs de charrue. Ils coupaient, taillaient, hachaient avec les faux de leurs trompes. Les tours pleines de phalariques semblaient des volcans en marche. On ne distinguait qu'un large amas où les chairs humaines faisaient des taches blanches, les morceaux d'airain, des plaques grises, le sang, des fusées rouges. Les horribles animaux, passant au milieu de tout cela, creusaient des sillons noirs. Le plus furieux était conduit par un humide, couronné d'un diadème de plumes. Il lançait des javelots avec une vitesse effrayante, tout en jetant par intervalle un long sifflement aigu. Les grosses bêtes, dociles comme des chiens, pendant le carnage, tournaient un œil de son côté. Leur cercle, peu à peu, se rétrécissait. Les barbares affaiblis ne résistaient pas. Bientôt les éléphants furent au centre de la plaine. L'espace leur manquait. Ils se tassaient à demi cabrés, les ivoires s'entrechoquaient. Tout à coup Narr-Havas les apaisa, et tournant la croupe, ils s'en revinrent au trot vers les collines. Cependant, 2 syntagmes s'étaient réfugiés à droite dans un pli du terrain, avaient jeté leurs armes, et tous à genoux vers les tentes puniques, ils levaient leurs bras pour implorer grâce. On leur attacha les jambes et les mains, puis quand ils furent étendus par terre les uns près des autres, on ramena les éléphants. Les poitrines craquaient comme des coffres que l'on brise, chacun de leurs pas en écrasait 2. Leurs gros pieds enfonçaient dans les corps avec un mouvement des hanches qui les faisait paraître boiter. Ils continuaient et allèrent jusqu'au bout. Le niveau de la plaine redevint immobile. La nuit tomba. Hamilcar se délectait devant le spectacle de sa vengeance, mais soudain il tressaillit. Il voyait, et tous voyaient, à 600 pas de là, sur la gauche, au sommet d'un mamelon, des barbares encore. En effet, 400 des plus solides, des mercenaires étrusques, libyens et spartiates, dès le commencement avaient gagné les hauteurs, et jusque-là s'y étaient tenus incertains. Après ce massacre de leurs compagnons, ils résolurent de traverser les Carthaginois. Déjà ils descendaient en colonne serrée d'une façon merveilleuse et formidable. Un héros leur fut immédiatement expédié. Le suffète avait besoin de soldats. Il les recevait sans condition tant il admirait leur bravoure. Il pouvait même, ajouta l'homme de Carthage, se rapprocher quelque peu dans un endroit qu'il leur désigna et où ils trouveraient des vivres. Les barbares y coururent et passèrent la nuit à manger. Alors les Carthaginois éclatèrent en rumeurs contre la partialité du suffète pour les mercenaires. Céda-t-il à ces expansions d'une haine insatiable, ou bien était-ce un raffinement de perfidie? Le lendemain, il vint lui-même sans épée, tête nue, dans une écorte de clinabar, et il leur déclara qu'ayant trop de monde à nourrir, son intention n'était pas de les conserver. Cependant, comme il lui fallait des hommes et qu'il ne savait par quels moyens choisir les bons, ils allaient se combattre à outrance, puis il admettrait les vainqueurs dans sa garde particulière. Cette mort-là en valait bien une autre. Et alors, écartant ses soldats, car les étendards puniques cachaient aux mercenaires l'horizon, il leur montra les 192 éléphants de Narr-Havas, formant une seule ligne droite et dont les trompes brandissaient de larges fers, pareils à des bras de géants qui auraient tenu des haches sur leur tête. Les barbares s'entre-regardèrent silencieusement. Ce n'était pas la mort qui les faisait pâlir, mais l'horrible contrainte où ils se trouvaient réduits. La communauté de leur existence avait établi entre ces hommes des amitiés profondes. Le camp, pour la plupart, remplaçait la patrie. Vivant sans famille, Ils reportaient sur un compagnon leur besoin de tendresse, et l'on s'endormait côte à côte, sous le même manteau, à la clarté des étoiles. Puis, dans ce vagabondage perpétuel, à travers toutes sortes de pays, de meurtres et d'aventures, ils s'étaient formés d'étranges amours, unions obscènes aussi sérieuses que des mariages, où le plus fort défendait le plus jeune au milieu des batailles, l'aidait à franchir les précipices, épongeait sur son front la sueur des fièvres, volait pour lui de la nourriture, et l'autre, enfant ramassé au bord d'une route, puis devenu mercenaire, payait ce dévouement par mille soins délicats et des complaisances d'épouse. Ils échangèrent leurs colliers et leurs pendants d'oreilles, cadeaux qu'ils s'étaient faits autrefois, après un grand péril, dans des heures d'ivresse. Tous demandaient à mourir, et aucun ne voulait frapper. On en voyait un jeune, çà et là, qui disait à un autre dont la barbe était grise, « Non, non, tu es le plus robuste, tu nous vengeras, tue-moi » Et l'homme répondait, « J'ai moins d'années à vivre, frappe au cœur et n'y pense plus. » Les frères se contemplaient, les deux mains serrées, et l'amant faisait à son amant des adieux éternels, debout, en pleurant sur son épaule. Ils retirèrent leurs cuirasses pour que la pointe des glaives s'enfonçât plus vite. Alors parurent les marques des grands coups qu'ils avaient reçus pour Carthage. On aurait dit des inscriptions sur des colonnes. Ils se mirent sur quatre rangs égaux, à la façon des gladiateurs, et ils commencèrent par des engagements timides. Quelques-uns s'étaient bandés les yeux, et leurs glaives ramaient dans l'air doucement, comme des bâtons d'aveugle. Les Carthaginois poussèrent des huées, en leur criant qu'ils étaient des lâches. Les barbares s'animèrent, et bientôt le combat fut général, précipité, terrible. Parfois deux hommes s'arrêtaient tout sanglants, tombaient dans les bras l'un de l'autre et mouraient en se donnant des baisers. Aucun ne reculait. Ils se ruaient contre les lames tendues. Leur délire était si furieux que les Carthaginois de loin avaient peur. Enfin, ils s'arrêtèrent. Leur poitrine faisait un grand bruit rauque, et l'on apercevait leurs prunelles entre leurs longs cheveux qui pendaient comme s'ils fussent sortis d'un bain de pourpre. Plusieurs tournaient sur eux-mêmes, rapidement, tels que des panthères blessées au front. D'autres se tenaient immobiles, en considérant un cadavre à leurs pieds. Puis tout à coup, ils s'arrachaient le visage avec les ongles, prenaient leur glaive à deux mains et se l'enfonçaient dans le ventre. Il en restait 60 encore. Ils demandèrent à boire. On leur cria de jeter leur glaive, et quand ils les eurent jetés, on leur apporta de l'eau. Pendant qu'ils buvaient, la figure enfoncée dans les vases, 60 Carthaginois sautant sur eux, les tuèrent, avec des stylets, dans le dos. Hamilcar avait fait cela pour complaire aux instincts de son armée, et par cette trahison l'attacher à sa personne. Donc, la guerre était finie, du moins il le croyait. Mato ne résisterait pas. Dans son impatience, le suffète ordonna tout de suite le départ. Ses éclaireurs vinrent lui dire que l'on avait distingué un convoi qui s'en allait vers la montagne de plomb. Hamilcar ne s'en soucia. Une fois les mercenaires anéantis, les nomades ne l'embarrasseraient plus. L'important était de prendre Tunis. À grande journée, il marcha dessus. Il avait envoyé Narhavas à Carthage porter la nouvelle de la victoire, et le roi des Numides, fier de ses succès, se présenta chez Salammbô. Elle le reçut dans ses jardins, sous un large sycomore, entre des oreillers de cuir jaune, avec Taanach auprès d'elle. Son visage était couvert d'une écharpe blanche, qui, lui passant sur la bouche et sur le front, ne laissait voir que les yeux, mais ses lèvres brillaient dans la transparence du tissu, comme les pierreries de ses doigts, car Salammbô tenait ses deux mains enveloppées, et tout le temps qu'ils parlèrent, elle ne fit pas un geste. Narhavas lui annonça la défaite des barbares. Elle le remercia par une bénédiction des services qu'il avait rendus à son père. Alors il se mit à raconter toute la campagne. Les colombes, sur les palmiers autour d'eux, roucoulaient doucement, et d'autres oiseaux voletaient parmi les herbes, des galéoles à collier, des cailles de tartessus et des pintades puniques. Le jardin, depuis longtemps inculte, avait multiplié ses verdures. Des coloquintes montaient dans le branchage des canéficiers, des asclépias parsemaient les champs de roses, toutes sortes de végétations formaient des entrelacements, des berceaux, et des rayons de soleil qui descendaient obliquement marquaient çà et là, comme dans les bois, l'ombre d'une feuille sur la terre. Les bêtes domestiques, redevenues sauvages, s'enfuyaient au moindre bruit. Parfois on apercevait une gazelle traînant à ses petits sabots noirs des plumes de paon dispersées. Les clameurs de la ville au loin se perdaient dans le murmure des flots. Le ciel était tout bleu, pas une voile n'apparaissait sur la mer. Narravas ne parlait plus. Salambo, sans lui répondre, le regardait. Il avait une robe de lin, où des fleurs étaient peintes, avec des franges d'or par le bas. Deux flèches d'argent retenaient ses cheveux tressés au bord de ses oreilles, et il s'appuyait de la main droite contre le bois d'une pique, ornée par des cercles d'électrum et des touffes de poils. En le considérant, une foule de pensées vagues l'absorbait. Ce jeune homme à voix douce et à taille féminine captivait ses yeux par la grâce de sa personne, et il lui semblait être comme une sœur aînée que les Baals envoyaient pour la protéger. Le souvenir de Mato la saisit. Elle ne résista pas au désir de savoir ce qu'il devenait. Narhavas répondit que les Carthaginois s'avançaient vers Tunis afin de le prendre. À mesure qu'il exposait leurs chances de réussite et la faiblesse de Mato, elle paraissait se réjouir dans un espoir extraordinaire. Ses lèvres tremblaient, sa poitrine haletait. Quand il promit enfin de le tuer lui-même, elle s'écria « Oui, tue-le, il le faut ». Le Numide répliqua qu'il souhaitait ardemment cette mort, puisque, la guerre terminée, il serait son époux. Salambo tressaillit, et elle baissa la tête. Mais Narhavas, poursuivant, compara ses désirs à des fleurs qui languissent après la pluie, à des voyageurs perdus qui attendent le jour. Il lui dit encore qu'elle était plus belle que la lune, meilleure que le vent du matin et que le visage de l'hôte. Il ferait venir pour elle, du pays des Noirs, des choses comme il n'y en avait pas à Carthage, et les appartements de leur maison seraient sablés avec de la poudre d'or. Le soir tombait, des senteurs de baume s'exhalaient. Pendant longtemps ils se regardèrent en silence, et les yeux de Salambo, au fond de ses longues draperies, avaient l'air de deux étoiles dans l'ouverture d'un nuage. Avant que le soleil fût couché, il se retira. Les anciens se sentirent soulagés d'une grande inquiétude quand il partit de Carthage. Le peuple l'avait reçu avec des acclamations encore plus enthousiastes que la première fois. Si Hamilcar et le roi des Numides triomphaient seuls des mercenaires, il serait impossible de leur résister. Donc ils résolurent, pour affaiblir Barca, de faire participer à la délivrance de la République celui qu'ils aimaient, le vieil Hannon. Il se porta immédiatement vers les provinces occidentales, afin de se venger dans les lieux mêmes qui avaient vu sa honte. Mais les habitants et les barbares étaient morts, cachés ou enfuis. Alors sa colère se déchargea sur la campagne. Il brûla les ruines des ruines. Il ne laissa pas un seul arbre, pas un brin d'herbe. Les enfants et les infirmes que l'on rencontrait, on les suppliciait. Il donnait à ses soldats les femmes à violer avant leur égorgement. Les plus belles étaient jetées dans sa litière, car son atroce maladie l'enflammait de désirs impétueux. Il les assouvissait avec toute la fureur d'un homme désespéré. Souvent, à la crête des collines, des tentes noires s'abattaient comme renversées par le vent, et de larges disques, à bordure brillante que l'on reconnaissait pour des roues de chariot, en tournant avec un son plaintif, peu à peu s'enfonçaient dans les vallées. Les tribus, qui avaient abandonné le siège de Carthage, erraient ainsi par les provinces, attendant une occasion, quelques victoires des mercenaires pour revenir. Mais, soit terreur ou famine, elles reprirent tout le chemin de leur contrée et disparurent. Hamilcar ne fut point jaloux des succès d'Hannon. Cependant, il avait hâte d'en finir. Il lui ordonna de se rabattre sur Tunis, et Hannon, qui aimait sa patrie, au jour fixé, se trouva sous les murs de la ville. Elle avait pour se défendre sa population d'autochtones, 12 000 mercenaires, puis tous les mangeurs de choses immondes, car ils étaient comme Mato rivés à l'horizon de Carthage, et la plèbe et le chalichim contemplaient de loin ces hautes murailles en rêvant par derrière des jouissances infinies. Dans cet accord de haine, la résistance fut lestement organisée. On prit des outres pour faire des casques, on coupa tous les palmiers dans les jardins pour avoir des lances, on creusa des citernes, et quant aux vivres, ils pêchaient au bord du lac de gros poissons blancs nourris de cadavres et d'immondices. Leur rempart, maintenu en ruine par la jalousie de Carthage, était si faible que l'on pouvait d'un coup d'épaule les abattre. Mato emboucha les trous avec les pierres des maisons. C'était la dernière lutte. Il n'espérait rien, et cependant il se disait que la fortune était changeante. Les Carthaginois, en approchant, remarquèrent sur le rempart un homme qui dépassait les créneaux de toute la ceinture. Les flèches volant autour de lui n'avaient pas l'air de plus l'effrayer qu'un essaim d'hirondelles. Aucune, par extraordinaire, ne le toucha. Hamilcar établit son camp sur le côté méridional. Naravas, à sa droite, occupait la plaine de Rhades. Hannon, le bord du lac. Et les trois généraux devaient garder leurs positions respectives pour attaquer l'enceinte, tous en même temps. Mais Hamilcar voulut d'abord montrer aux mercenaires qu'il les châtirait comme des esclaves. Il fit crucifier les 10 ambassadeurs, les uns près des autres, sur un monticule, en face de la ville. À ce spectacle, les assiégés abandonnèrent le rempart. Mato s'était dit que s'il pouvait passer entre les murs et les tentes de Naravas assez rapidement pour que les Numides n'eussent pas le temps de sortir, il tomberait sur les derrières de l'infanterie carthaginoise qui se trouverait prise entre sa division et ceux de l'intérieur. Il s'élança dehors avec les vétérans. Naravas l'aperçut. Il franchit la plage du lac et vint avertir Hannon d'expédier des hommes au secours d'Hamilcar. Croyait-il Barca trop faible pour résister aux mercenaires? Était-ce une perfidie ou une sottise? Nul jamais ne put le savoir. Hannon, par désir d'humilier son rival, ne balança pas. Il cria de sonner les trompettes et toute son armée se précipita sur les barbares. Ils se retournèrent et coururent droit aux Carthaginois. Ils les renversaient, les écrasaient sous leurs pieds et les refoulant ainsi, ils arrivèrent jusqu'à la tente d'Hannon, qui était alors au milieu de 30 Carthaginois, les plus illustres des anciens. Il parut stupéfait de leur audace. Il appelait ses capitaines. Tous avançaient leurs poings sous sa gorge, en vociférant des injures. La foule se poussait, et ceux qui avaient la main sur lui le retenaient à grand-peine. Cependant, il tâchait de leur dire à l'oreille « Je te donnerai tout ce que tu veux, je suis riche, sauve-moi » Il le tirait. Si lourd qu'il fût, ses pieds ne touchaient plus la terre. On avait entraîné les anciens. Sa terreur redoubla. « Vous m'avez battu !» « Je suis votre captif, je me rachète, écoutez-moi, mes amis !» Et porté par toutes ses épaules qui le serraient au flanc, il répétait « Qu'allez-vous faire? Que voulez-vous? Je ne m'obstine pas, vous voyez bien, j'ai toujours été bon !» Une croix gigantesque était dressée à la porte. Les barbares hurlaient « Ici, ici !» Mais il éleva la voix encore plus haut, et au nom de leur dieu, il les somma de le mener au Chalichim parce qu'il avait à lui confier une chose d'où leur salut dépendait. Ils s'arrêtèrent, quelques-uns prétendant qu'il était sage d'appeler Mato. On partit à sa recherche. Hannon tomba sur l'herbe, et il voyait autour de lui encore d'autres croix, comme si le supplice dont il allait périr se fût d'avance multiplié. Il faisait des efforts pour se convaincre qu'il se trompait, qu'il n'y en avait qu'une seule, et même pour croire qu'il n'y en avait pas du tout. Enfin on le releva. « Parle !» dit Mato. Il offrit de livrer Hamilcar. Puis ils entreraient dans Carthage et seraient rois tous les deux. Mato s'éloigna, en faisant signe aux autres de se hâter. C'était, pensait-il, une ruse pour gagner du temps. Le barbare se trompait. Hannon était dans une de ces extrémités où l'on ne considère plus rien, et d'ailleurs il exécrait tellement Hamilcar que sur le moindre espoir de salut, il l'aurait sacrifié avec tous ses soldats. À la base des 30 croix, les anciens languissaient par terre. Déjà des cordes étaient passées sous leurs aisselles. Alors le vieux suffète, comprenant qu'il fallait mourir, pleura. Ils arrachèrent ce qui lui restait de vêtements, et l'horreur de sa personne apparut. Des ulcères couvraient cette masse sans nom, la graisse de ses jambes lui cachait les ongles des pieds. Il pendait à ses doigts comme des lambeaux verdâtres, et les larmes qui ruisselaient entre les tubercules de ses joues donnaient à son visage quelque chose d'effroyablement triste, ayant l'air d'occuper plus de place que sur un autre visage humain. Son bandeau royal, à demi dénoué, traînait avec ses cheveux blancs dans la poussière. Ils crurent n'avoir pas de cordes assez fortes pour le grimper jusqu'au bout de la croix, et ils le clouèrent dessus, avant qu'elle fût dressée, à la mode punique. Mais son orgueil se réveilla dans la douleur. Il se mit à les accabler d'injures. Il l'écumait et se tordait, comme un monstre marin que l'on égorge sur un rivage, en leur prédisant qu'ils finiraient tous plus horriblement encore et qu'ils seraient vengés. Il l'était. De l'autre côté de la ville, d'où s'échappaient maintenant des jets de flammes avec des colonnes de fumée, les ambassadeurs des mercenaires agonisaient. Quelques-uns, évanouis d'abord, venaient de se ranimer sous la fraîcheur du vent. Mais ils restaient le menton sur la poitrine, et leur corps descendait un peu, malgré les clous de leurs bras fixés plus haut que leur tête. De leurs talons et de leurs mains, du sang tombait par grosses gouttes, lentement, comme des branches d'un arbre tombent des fruits mûrs. Et Carthage, le golfe, les montagnes et les plaines, tout leur paraissait tourné, tel qu'une immense roue. Quelquefois, Un nuage de poussière montant du sol les enveloppait dans ses tourbillons. Ils étaient brûlés par une soif horrible. Leur langue se retournait dans leur bouche et ils sentaient sur eux une sueur glaciale couler avec leur âme qui s'en allait. Cependant, ils entrevoyaient à une profondeur infinie des rues, des soldats en marche, des balancements de glaives, et le tumulte de la bataille leur arrivait vaguement, comme le bruit de la mer à des naufragés qui meurent dans la mâture d'un navire. Les Italiotes, plus robustes que les autres, criaient encore. Les Lacédémoniens, se taisant, gardaient leurs paupières fermées. Zarxas, si vigoureuse autrefois, penchait comme un roseau brisé. L'Éthiopien, près de lui, avait la tête renversée en arrière par-dessus les bras de la croix. Autharite, immobile, roulait des yeux. Sa grande chevelure, prise dans une fente de bois, se tenait droite sur son front, et le râle qu'il poussait semblait plutôt un rugissement de colère. Quant à Spendius, un étrange courage lui était venu. Maintenant, il méprisait la vie, par la certitude qu'il avait d'un affranchissement presque immédiat et éternel, et il attendait la mort avec impassibilité. Au milieu de leur défaillance, quelquefois ils tressaillaient à un frôlement de plumes qui leur passait contre la bouche. De grandes ailes balançaient des ambres autour d'eux, des croassements claquaient dans l'air, et comme la croix de Spendius était la plus haute, ce fut sur la sienne que le premier vautour s'abattit. Alors il tourna son visage vers Autharite et lui dit lentement, avec un indéfinissable sourire, « Te rappelles-tu les lions sur la route de Sicca ?»« C'étaient nos frères, » répondit le Gaulois en expirant. Le suffète, pendant ce temps-là, avait troué l'enceinte et il était parvenu à la citadelle. Sous une rafale de vent, la fumée tout à coup s'envola, découvrant l'horizon jusqu'aux murailles de Carthage. Il crut même distinguer des gens qui regardaient sur la plateforme des Schmoun. Puis, en ramenant ses yeux, il aperçut à gauche au bord du lac 30 croix démesurées. En effet, pour les rendre plus effroyables, il les avait construites avec les mâts de leurs tentes attachés bout à bout, et les 30 cadavres des anciens apparaissaient tout en haut dans le ciel. Il y avait sur leurs poitrines comme des papillons blancs, c'étaient les barbes des flèches qu'on leur avait tirées d'en bas. Au faîte de la plus grande, un large ruban d'or brillait. Il pendait sur l'épaule, le bras manquait de ce côté-là, et Hamilcar eut de la peine à reconnaître Hannon. Ses os, spongieux, ne tenant pas sous les fiches de fer, des portions de ses membres s'étaient détachées, et il ne restait à la croix que d'informes débris, pareils à ces fragments d'animaux suspendus contre la porte des chasseurs. Le suffète n'avait rien pu savoir. La ville devant lui masquait tout ce qui était au-delà, par derrière, et les capitaines envoyés successivement aux deux généraux n'avaient pas reparu. Alors des fuyards arrivèrent, racontant la déroute, et l'armée punique s'arrêta. Cette catastrophe, tombant au milieu de leur victoire, les stupéfiait. Ils n'entendaient plus les ordres d'Hamilcar. Mato en profitait pour continuer ses ravages dans les Numides. Le camp d'Hannon bouleversé, il était revenu sur eux. Les éléphants sortirent, mais les mercenaires, avec des brandons attrachés au mur, s'avancèrent par la plaine en agitant des flammes, et les grosses bêtes, effrayées, coururent se précipiter dans le golfe où elles se tuaient les unes les autres en se débattant, et se noyèrent sous le poids de leurs cuirasses. Déjà Narr-Havas avait lâché sa cavalerie, tous se jetèrent la face contre le sol, puis quand les chevaux furent à 3 pas d'eux, ils bondirent sous leur ventre qu'ils ouvraient d'un coup de poignard, et la moitié des Numides avait péri, quand Barca survint. Les mercenaires, épuisés, ne pouvaient tenir contre ces troupes. Ils reculèrent en bon ordre jusqu'à la montagne des eaux chaudes. Le suffète eut la prudence de ne pas les poursuivre. Il se porta vers les embouchures du Macar. Tunis lui appartenait, mais elle ne faisait plus qu'un amoncellement de décombres fumants. Les ruines descendaient par les brèches des murs jusqu'au milieu de la plaine. Tout au fond, entre les bords du golfe, les cadavres des éléphants, poussés par la brise, s'entrechoquaient comme un archipel de rochers noirs flottant sur l'eau. Narr-Havas, pour soutenir cette guerre, avait épuisé ses forêts, pris les jeunes et les vieux, les mâles et les femelles, et la force militaire de son royaume ne s'en releva pas. Le peuple, qui les avait vus de loin périr, en fut désolé. Des hommes se lamentaient dans les rues, en les appelant par leur nom, comme des amis défunts. « Ah, l'invincible, la victoire, le foudroyant, l'hirondelle !» Le premier jour même, on en parla plus que des citoyens morts. Mais le lendemain, on aperçut les tentes des mercenaires sur la montagne des eaux chaudes. Alors le désespoir fut si profond que beaucoup de gens, des femmes surtout, se précipitèrent la tête en bas du haut de l'acropole. On ignorait les desseins d'Amilcar. Il vivait seul dans sa tente, n'ayant près de lui qu'un jeune garçon, et jamais personne ne mangeait avec eux, pas même Narravas. Cependant, il lui témoignait des égards extraordinaires depuis la défaite d'Annon. Mais le roi des Numides avait trop d'intérêt à devenir son fils pour ne pas s'en méfier. Cette inertie voilait des manœuvres habiles. Par toutes sortes d'artifices, Amilcar séduisit les chefs des villages, et les mercenaires furent chassés, repoussés, traqués comme des bêtes féroces. Dès qu'ils entraient dans un bois, les arbres s'enflammaient autour d'eux. Quand ils buvaient à une source, elle était empoisonnée. On murait les cavernes où ils se cachaient pour dormir. Les populations qui les avaient jusque-là défendus, leurs anciens complices, maintenant les poursuivaient. Ils reconnaissaient toujours dans ces bandes des armures carthaginoises. Plusieurs étaient rongés au visage par des dartres rouges. Cela leur était venu, pensait-il, en touchant Annon. D'autres s'imaginaient que c'était pour avoir mangé les poissons de Salambo, et, loin de s'en repentir, ils rêvaient des sacrilèges encore plus abominables, afin que l'abaissement des dieux puniques fût plus grand. Ils auraient voulu les exterminer. Ils se traînèrent ainsi pendant 3 mois, le long de la côte orientale, puis derrière la montagne de Selloum et jusqu'au premier sable du désert. Ils cherchaient une place de refuge, n'importe laquelle. Utique et Hipposarite seuls ne les avaient pas trahis, mais Amilcar enveloppait ces deux villes. Puis ils remontèrent dans le nord, au hasard, sans même connaître les routes. À force de misère, leur tête était troublée. Ils n'avaient plus que le sentiment d'une exaspération qui allait en se développant, et ils se retrouvèrent un jour dans les gorges du Cobus, encore une fois devant Carthage. Alors les engagements se multiplièrent. La fortune se maintenait égale, mais ils étaient les uns et les autres tellement excédés qu'ils souhaitaient, au lieu de ces escarmouches, une grande bataille, pourvu qu'elle fût bien la dernière. Mato avait envie d'emporter lui-même la proposition au suffète. Un de ses Libyens se dévoua. Tous, en le voyant partir, étaient convaincus qu'il ne reviendrait pas. Il revint, le soir même. Amilcar acceptait leur défi. On se rencontrerait le lendemain, au soleil levant, dans la plaine de Rhadès. Les mercenaires voulurent savoir s'il n'avait rien dit de plus, et le Libyen ajouta « Comme je restais devant lui, il m'a demandé ce que j'attendais. J'ai répondu « qu'on me tue ». Alors il a repris « Non, va-t'en. « Ce sera pour demain, avec les autres. » Cette générosité étonna les barbares. Quelques-uns en furent terrifiés, et Mato regretta que le parlementaire n'eût pas été tué. Il lui restait encore 3000 Africains, 1200 Grecs, 1500 Campaniens, 200 Ibères, 400 Étrusques, 500 Samnites, 40 Gaulois et une troupe de Nafurs, bandits nomades rencontrés dans la région des Dates, en tout 7219 soldats, mais pas une syntagme complète. Ils avaient bouché les trous de leurs cuirasses avec des omoplates de quadrupèdes et remplacé leurs cothurnes d'airain par des sandales en chiffon. Des plaques de cuivre ou de fer alourdissaient leurs vêtements, leurs cottes de mailles pendaient en guenilles autour d'eux et les balafres apparaissaient comme des fils de pourpre entre les poils de leurs bras et de leurs visages. Les colères de leurs compagnons morts leur revenaient à l'âme et multipliaient leur vigueur. Ils sentaient confusément qu'ils étaient les desservants d'un dieu épandu dans les cœurs d'opprimés, et comme les pontifes de la vengeance universelle. Puis la douleur d'une injustice exorbitante les enrageait, et surtout la vue de Carthage à l'horizon. Ils firent le serment de combattre les uns pour les autres, jusqu'à la mort. On tua les bêtes de somme, et l'on mangea le plus possible, afin de se donner des forces. Ensuite, ils dormirent. Quelques-uns prièrent, tournés vers des constellations différentes. Les Carthaginois arrivèrent dans la plaine avant eux. Ils frottèrent le bord des boucliers avec de l'huile pour faciliter le glissement des flèches. Les fantassins qui portaient de longues chevelures se les coupèrent sur le front par prudence, et Amilcar, dès la 5e heure, fit renverser toutes les gamelles, sachant qu'il est désavantageux de combattre l'estomac trop plein. Son armée montait à 14 000 hommes, le double environ de l'armée barbare. Jamais il n'avait éprouvé cependant une pareille inquiétude. S'il succombait, c'était l'anéantissement de la République, et il périrait crucifié. S'il triomphait, au contraire, par les Pyrénées, les Gaules et les Alpes, il gagnerait l'Italie, et l'empire des Barca deviendrait éternel. 20 fois pendant la nuit, il se releva pour surveiller tout, lui-même, jusque dans les détails les plus minimes. Quant aux Carthaginois, ils étaient exaspérés par leur longue épouvante. Narr-Havas doutait de la fidélité de ses Numides. D'ailleurs, les barbares pouvaient les vaincre. Une faiblesse étrange l'avait pris. À chaque moment, il buvait de larges coupes d'eau. Mais un homme qu'il ne connaissait pas ouvrit sa tente et déposa par terre une couronne de sel gemme ornée de dessins hiératiques faits avec du soufre et des losanges de nacre. On envoyait quelquefois au fiancé sa couronne de mariage. C'était une preuve d'amour, une sorte d'invitation. Cependant, la fille d'Amilcar n'avait point de tendresse pour Narr-Havas. Le souvenir de Mato la gênait d'une façon intolérable. Il lui semblait que la mort de cet homme débarrasserait sa pensée, comme pour se guérir de la blessure des vipères, on les écrase sur la plaie. Le roi des Numides était dans sa dépendance. Il attendait impatiemment les noces, et comme elle devait suivre la victoire, Salammbô lui faisait ce présent afin d'exciter son courage. Alors ses angoisses disparurent, et il ne songea plus qu'au bonheur de posséder une femme si belle. La même vision avait assailli Mato, mais il la rejeta tout de suite, et son amour qu'il refoulait se répandit sur ses compagnons d'armes. Il les chérissait comme des portions de sa propre personne, de sa haine, et il se sentait l'esprit plus haut, les bras plus forts, tout ce qu'il fallait exécuter lui apparut nettement. Si parfois des soupirs lui échappaient, c'est qu'il pensait à Spendius. Il rangea les barbares sur 6 rangs égaux. Au milieu, il établit les Étrusques, tous attachés par une chaîne de bronze. Les hommes de trait se tenaient par derrière, et sur 2 ailes il distribua des naffures, montés sur des chameaux à poils ras, couverts de plumes d'autruche. Le suffète disposa les Carthaginois dans un ordre pareil. En dehors de l'infanterie, près des Vélites, il plaça les Clinabares, au-delà, les Numides. Quand le jour parut, ils étaient les uns et les autres, ainsi alignés, face à face. Tous, de loin, se contemplaient, avec leurs grands yeux farouches. Il y eut d'abord une hésitation. Enfin, les 2 armées s'ébranlèrent. Les barbares s'avançaient lentement, pour ne point s'essouffler, en battant la terre avec leurs pieds. Le centre de l'armée punique formait une courbe convexe. Puis, un choc terrible éclata, pareil au craquement de 2 flottes qui s'abordent. Le premier rang des barbares s'était vite entr'ouvert, et les gens de trait cachés derrière les autres lançaient leurs balles, leurs flèches, leurs javelots. Cependant, la courbe des Carthaginois peu à peu s'aplatissait. Elle devint toute droite, puis s'infléchit. Alors, les 2 sections des Vélites se rapprochèrent parallèlement, comme les branches d'un compas qui se referme. Les barbares, acharnés contre la phalange, entraient dans sa crevasse. Ils se perdaient. Mato les arrêta, et tandis que les ailes carthaginoises continuaient à s'avancer, il fit écouler en dehors les 3 rangs intérieurs de sa ligne. Bientôt ils débordèrent ses flancs, et son armée apparut sur une triple longueur. Mais les barbares placés aux 2 bouts se trouvaient les plus faibles, ceux de la gauche surtout, qui avaient épuisé leur carquois, et la troupe des Vélites, enfin arrivée contre eux, les entamait largement. Mato les tira en arrière. Sa droite contenait des campaniens, armés de haches. Il la poussa sur la gauche carthaginoise. Le centre attaquait l'ennemi, et ceux de l'autre extrémité, hors de péril, tenaient les Vélites en respect. Alors Amilcar divisa ses cavaliers par escadrons, mit entre eux des hoplites, et il les lâcha sur les mercenaires. Ces masses, en forme de cône, présentaient un front de chevaux, et leurs parois plus larges se hérissaient toutes remplies de lances. Il était impossible aux barbares de résister. Seuls les fantassins grecs avaient des armures d'airain. Tous les autres, des coutelas au bout d'une perche, des faux prises dans les métairies, des glaives fabriqués avec la jante d'une roue, les lames trop molles se tordaient en frappant, et pendant qu'ils étaient à les redresser sous leurs talons, les Carthaginois de droite et de gauche les massacraient commodément. Mais les Étrusques, rivés à leur chaîne, ne bougeaient pas. Ceux qui étaient morts, ne pouvant tomber, faisaient obstacle avec leurs cadavres, et cette grosse ligne de bronze tour à tour s'écartait et se resserrait, souple comme un serpent, inébranlable comme un mur. Les barbares venaient se reformer derrière elle, haletaient 1 minute, puis ils repartaient, avec les tronçons de leurs armes à la main. Beaucoup déjà n'en avaient plus, et ils sautaient sur les Carthaginois qu'ils mordaient au visage, comme des chiens. Les Gaulois, par orgueil, se dépouillèrent de leurs sayons. Ils montraient de loin leur grand corps tout blanc. Pour épouvanter l'ennemi, ils élargissaient leurs blessures. Au milieu des syntagmes puniques, on n'entendait plus la voix du crieur annonçant les ordres. Les étendards au-dessus de la poussière répétaient leurs signaux, et chacun allait, emporté dans l'oscillation de la grande masse qui l'entourait. Hamilcar commanda aux Numides d'avancer, mais les Nafurs se précipitèrent à leur rencontre. Habillés de vastes robes noires, avec une houppe de cheveux au sommet du crâne et un bouclier en cuir de rhinocéros, ils manœuvraient un fer sans manche retenu par une corde, et leurs chameaux, tout hérissés de plumes, poussaient de longs gloussements rauques. Les lames tombaient à des places précises, puis remontaient d'un coup sec, avec un membre après elles. Les bêtes furieuses galopaient à travers les syntagmes. Quelques-unes, dont les jambes étaient rompues, allaient en sautillant, comme des autruches blessées. L'infanterie punique tout entière revint sur les barbares. Elle les coupa. Leurs manipules tournoyaient, espacées les unes des autres. Les armes des Carthaginois, plus brillantes, les encerclaient comme des couronnes d'or. Un fourmillement s'agitait au milieu, et le soleil frappant dessus mettait aux pointes des glaives des lueurs blanches qui voltigeaient. Cependant, des files de clinabars restaient étendues sur la plaine. Des mercenaires arrachaient leurs armures, s'en revêtaient, puis ils retournaient au combat. Les Carthaginois, trompés, plusieurs fois s'engagèrent au milieu d'eux. Une hébétude les immobilisait, ou bien ils refluaient, et de triomphantes clameurs s'élevant au loin avaient l'air de les pousser comme des épaves dans une tempête. Hamilcar se désespérait. Tout allait périr sous le génie de Mato et l'invincible courage des mercenaires. Mais un large bruit de tambourin éclata dans l'horizon. C'était une foule, des vieillards, des malades, des enfants de 15 ans et même des femmes qui, ne résistant plus à leur angoisse, étaient partis de Carthage et, pour se mettre sous la protection d'une chose formidable, ils avaient pris, chez Hamilcar, le seul éléphant que possédait maintenant la République, celui dont la trompe était coupée. Alors il sembla aux Carthaginois que la patrie, abandonnant ses murailles, venait leur commander de mourir pour elle. Un redoublement de fureur les saisit, et les Numides entraînèrent tous les autres. Les barbares, au milieu de la plaine, s'étaient adossés contre un monticule. Ils n'avaient aucune chance de vaincre, pas même de survivre. Mais c'étaient les meilleurs, les plus intrépides et les plus forts. Les gens de Carthage se mirent à envoyer par-dessus les Numides des broches, des lardoirs, des marteaux. Ceux dont les consuls avaient eu peur mouraient sous des bâtons lancés par des femmes. La populace punique exterminait les mercenaires. Ils s'étaient réfugiés sur le haut de la colline. Leur cercle, à chaque brèche nouvelle, se refermait. Deux fois, il descendit, une secousse le repoussait aussitôt, et les Carthaginois pêle-mêle étendaient les bras, ils allongeaient leurs piques entre les jambes de leurs compagnons et fouillaient au hasard devant eux. Ils glissaient dans le sang, la pente du terrain trop rapide faisait rouler en bas les cadavres. L'éléphant qui tâchait de gravir le monticule en avait jusqu'au ventre, et sa trompe écourtée, large du bout, de temps à autre se levait, comme une énorme sangsue. Puis tous s'arrêtèrent. Les Carthaginois, en grinçant des dents, contemplaient le haut de la colline où les barbares se tenaient debout. Enfin, ils s'élancèrent brusquement, et la mêlée recommença. Souvent les mercenaires les laissaient approcher en leur criant qu'ils voulaient se rendre, puis, avec un ricanement effroyable, d'un coup, ils se tuaient, et à mesure que les morts tombaient, les autres, pour se défendre, montaient dessus. C'était comme une pyramide qui peu à peu grandissait. Bientôt ils ne furent que 50, puis que 20, que 3, et que 2 seulement, un Samnite armé d'une hache et Mato qui avait encore son épée. Le Samnite, courbé sur ses jarrets, poussait alternativement sa hache de droite et de gauche en avertissant Mato des coups qu'on lui portait. « Maître, par ici, par là, baisse-toi » Mato avait perdu ses épaulières, son casque, sa cuirasse. Il était complètement nu, plus livide que les morts, les cheveux tout droits, avec 2 plaques d'écume au coin des lèvres, et son épée tournoyait si rapidement qu'elle faisait une auréole autour de lui. Une pierre la brisa près de la garde, le Samnite était tué, et le flot des Carthaginois se resserrait, il le touchait. Alors il leva vers le ciel ses 2 mains vides, puis il ferma les yeux, et, ouvrant les bras comme un homme du haut d'un promontoire qui se jette à la mer, il se lança dans les piques. Elles s'écartèrent devant lui. Plusieurs fois il courut contre les Carthaginois, mais toujours il reculait, en détournant leurs armes. Son pied heurta un glaive, Mato voulut le saisir, il se sentit lié par les poings et les genoux, et il tomba. C'était Narravas qui le suivait depuis quelque temps, pas à pas, avec un de ses larges filets à prendre les bêtes farouches, et profitant du moment qu'il se baissait, il l'en avait enveloppé. Puis on l'attacha sur l'éléphant, les quatre membres en croix, et tous ceux qui n'étaient pas blessés, l'escortant, se précipitèrent à grand tumulte vers Carthage. La nouvelle de la victoire y était parvenue, chose inexplicable, dès la troisième heure de la nuit. La clepsydre de Camon avait versé la cinquième comme ils arrivaient à Malqua. Alors Mato ouvrit les yeux. Il y avait tant de lumière sur les maisons que la ville paraissait tout en flammes. Une immense clameur venait à lui vaguement, et couché sur le dos, il regardait les étoiles. Puis une porte se referma, et des ténèbres l'enveloppèrent. Le lendemain, à la même heure, le dernier des hommes resté dans le défilé de la hache expirait. Le jour que leurs compagnons étaient partis, les Uaès qui s'en retournaient avaient fait ébouler les roches, et ils les avaient nourris quelque temps. Les barbares s'attendaient toujours à voir paraître Mato, et ils ne voulaient point quitter la montagne par découragement, par langueur, par cette obstination des malades qui se refusent à changer de place. Enfin, les provisions épuisées, les Uaès s'en allèrent. On savait qu'il n'était plus que 1300 à peine, et l'on n'eut pas besoin pour en finir d'employer les soldats. Les bêtes féroces, les lions surtout, depuis 3 ans que la guerre durait, s'étaient multipliées. Narravas avait fait une grande battue, puis, courant sur eux, après avoir attaché des chèvres de distance en distance, il les avait poussés vers le défilé de la hache, et tous maintenant y vivaient, quand arriva l'homme envoyé par les anciens pour savoir ce qui restait des barbares. Sur l'étendue de la plaine, des lions et des cadavres étaient couchés, et les morts se confondaient avec des vêtements et des armures. À presque tous, le visage ou bien un bras manquait, quelques-uns paraissaient intacts encore, d'autres étaient desséchés complètement, et des crânes poudreux emplissaient des casques, des pieds qui n'avaient plus de chair sortaient tout droit des cnémides, des squelettes gardaient leurs manteaux, des ossements nettoyés par le soleil faisaient des taches luisantes au milieu du sable. Les lions reposaient, la poitrine contre le sol et les deux pattes allongées tout en clignant leurs paupières sous l'éclat du jour, exagérées par la réverbération des roches blanches. D'autres, assis sur leurs croupes, regardaient fixement devant eux. Ou bien, à demi perdus dans leurs grosses crinières, ils dormaient roulés en boule, et tous avaient l'air repus, las, ennuyés. Ils étaient immobiles comme la montagne et comme les morts. La nuit descendait, de larges bandes rouges rayaient le ciel à l'occident. Dans un de ces amas qui bosselaient irrégulièrement la plaine, quelque chose de plus vague qu'un spectre se leva. Alors, un des lions se mit à marcher, découpant avec sa forme monstrueuse une ombre noire sur le fond du ciel pourpre. Quand il fut tout près de l'homme, il le renversa d'un seul coup de patte. Puis, étalé dessus à plat ventre, du bout de ses crocs, lentement, il étirait les entrailles. Ensuite il ouvrit sa gueule toute grande, et durant quelques minutes il poussa un long rugissement que les échos de la montagne répétèrent et qui se perdit enfin dans la solitude. Tout à coup de petits graviers roulèrent d'en haut. On entendit un frôlement de pas rapides, et du côté de la herse, du côté de la gorge, des museaux pointus, des oreilles droites parurent, des prunelles fauves brillaient. C'étaient les chacals, arrivant pour manger les restes. Le Carthaginois, qui regardait penché au haut du précipice, s'en retourna.